Vous écoutez On lit pour vous.
En lutte contre le gaspillage. Une chronique d'Aloïse Gallet, parue le 17 mars 2025 dans La Source. Pour la série des articles sur les emplois verts, nous avons interrogé Benoît Liger, fondateur de Better Table, bettertable.com. Ben Liger est ingénieur agronome diplômé d'un MBA. Il a commencé sa carrière dans le développement durable en 2010 et n'a jamais lâché prise. Dans ses premiers emplois de consultant, il réalisait des bilans carbone, des analyses de cycle de vie et des plans de gestion des déchets pour les entreprises et les autorités publiques en Europe. Aujourd'hui, avec Better Table, une société d'intérêt social basée à Vancouver qui accompagne les cuisines commerciales pour augmenter leur profitabilité, Ben se concentre sur un défi écologique immense. La réduction du gaspillage alimentaire et de l'empreinte carbone des aliments. Comme nous allons le voir, en matière de durabilité, le gaspillage alimentaire, c'est tout sauf une mince affaire. Lorsqu'on interroge Ben sur les plus grands défis environnementaux du moment, il enchaîne. Tout d'abord, il y a le défi climatique. Mais celui-ci est trop souvent perçu de manière restrictive, sous l'angle des transports et de l'énergie. Pourtant, il y a un gigantesque impensé. Les émissions de gaz à effet de serre liées à l'alimentation. Elles représentent un tiers des émissions mondiales. Le gaspillage à lui seul en compte pour 10%, quatre fois plus que le carbone émis par le secteur de l'aviation. Ben explique qu'en s'intéressant à la chaîne des impacts de l'alimentation, on touche très vite à la question de l'eau, dont 80% sont affectés à la production alimentaire. Le gaspillage est un problème que l'on peut et que l'on doit résoudre. Ben rappelle que les pertes économiques liées au gaspillage alimentaire au Canada sont aujourd'hui estimées à plus de 50 milliards de dollars. De la fourche à la fourchette, c'est-à-dire sur l'ensemble de la chaîne de valeur, ce gâchis fait des ravages pour le climat et pour la biodiversité. Et quand on ajoute à ce désastre le fait qu'il y a chaque jour un Canadien sur sept qui ne mange pas à sa faim, on comprend l'intérêt de lutter contre le gaspillage pour les humains, pour notre planète et pour le bilan comptable. Les économies potentielles dans les cuisines commerciales, clientèle cible de Better Table, sont importantes, avec 13% du gaspillage qui leur sont imputables. Il faut bien comprendre qu'un kilo de nourriture gaspillée après l'assiette représente une perte de valeur économique et un impact écologique bien supérieur à ceux d'un kilo perdu à la ferme. Et ça, les chefs restaurateurs qui font confiance à Ben l'ont bien compris. Cette vision de la durabilité et de l'économie est devenue pour Ben une vocation. Il y a plusieurs documentaires qui m'ont marqué et qui m'ont façonné, nous confie-t-il. Une vérité qui dérange de Davis Guggenheim, 2006, qui annonçait pour la première fois au grand public la catastrophe climatique par la voix du vice-président américain Al Gore. Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015, qui montrait les solutions écologiques souhaitables pour bâtir un avenir durable, et une rencontre mémorable avec le photographe et reporter Yann Arthus-Bertrand sur le Champ de Mars à Paris, ont orienté son parcours. Il ne faut jamais sous-estimer l'importance des récits, y compris des documentaires. Ils nous éduquent, ils nous éclairent. Entre 2020 et 2024, Ben a coproduit avec la réalisatrice Viviane Davidson-Castro son premier documentaire, Food Synergy, pour sensibiliser le public aux enjeux du gaspillage, mais aussi pour montrer les solutions qui existent, insiste-t-il. Lorsqu'on interroge Ben sur ce qui manque aujourd'hui pour mieux lutter contre le gaspillage, il défend le besoin de légiférer. En arrivant à Vancouver, j'ai été impressionné par l'ampleur du compostage des déchets organiques. C'était le résultat d'une obligation réglementaire. Lorsque je regarde les progrès récents réalisés en France, c'est bien la réglementation qui a interdit aux supermarchés de jeter certains produits alimentaires. Nous avons besoin du droit, qui tantôt oblige, tantôt interdit. Ben Liget anime un groupe de travail spécialisé sur le zéro déchet auprès de la région Métro Vancouver. Optimiste de nature, Ben fait partie de ceux qui anticipent les bénéfices de l'intelligence artificielle pour accélérer la transition vers un système alimentaire durable. Mais la technologie ne saurait tout résoudre. Il faudra aussi de nombreuses personnes prêtes à s'engager. À celles et ceux qui voudraient se lancer, comme Ben, dans l'entrepreneuriat à impact, voici ses conseils. N'abandonnez jamais. La persévérance est clé. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent et qui peuvent vous guider. Et comme dans la nature, faites de la place aux personnes différentes. On grandit bien mieux dans la diversité. C'était En lutte contre le gaspillage, une chronique d'Aloïs Gallet, parue le 17 mars 2025 dans La Source.
Quand le découragement frappe, une chronique de Marisol Saint-Onge, parue le 6 avril 2025 dans Le Droit. Le parcours de la résilience n'est pas un chemin linéaire. Accepter son sort et réussir à s'y adapter s'apparente plutôt à des montagnes russes sans ceinture de sécurité. Il faut s'accrocher et tenir bon, dans les hauts comme dans les bas. Car au travers des sourires et des petites victoires sur ses limites, il y a aussi les moments de découragement. Pour tout dire, c'est une question qu'on m'a posée qui m'a encouragée à écrire sur le découragement. J'aborde à l'occasion les difficultés que me fait vivre ma quadruple amputation, mais j'avoue avoir plus souvent le réflexe de partager mes joies et mes accomplissements plutôt que mes tourments. À la suite de l'une de mes publications sur les réseaux sociaux, où j'assumais pleinement le fait d'enlever mes prothèses de jambes après une séance d'aérobie, une gentille dame m'écrivait ceci. Souvent, je me demande comment tu te parles quand une vague de découragement voile ta détermination ou atténue ta volonté de poursuivre tes objectifs. Une excellente question qui, pour y répondre avec sincérité, m'a fait retourner en arrière dans des moments où le découragement s'est sournoisement installé. J'ai d'abord réalisé que, même si j'ai toujours été volontaire et positive, il n'y a pas uniquement que moi qui ai su me parler. Il y a 13 ans. Je suis aux soins intensifs. C'est le soir et on m'a délivré du respirateur artificiel depuis peu. Le bonheur de pouvoir respirer et parler est de courte durée. Je suis continuellement aux prises avec des sécrétions qui roulent à chacune de mes bouffées d'air. Tout est difficile, inspirer comme expirer. On m'encourage à expulser le plus possible ce qui obstrue mes poumons. Mais là, je n'ai plus de force. Je ne suis plus capable. Tous les efforts que je fournis depuis des jours ne changent rien. Je ne respire pas mieux et je crache que de la salive. Je suis complètement découragée. Marie-Claude, préposée aux soins intensifs, remarque mon visage en larmes qui trahit mon désarroi. Elle s'approche et me demande pourquoi je pleure. Je lui réponds que je n'y crois plus, que je n'y arriverai jamais, qu'il va toujours rester des sécrétions. Elle se braque et me dit avec assurance, « Marisol, si toi, tu n'y crois plus, moi, je vais y croire pour nous deux. » Il y a 8 ans. Depuis que la bactérie mangeuse de chair m'a envoyé à l'urgence avec de la difficulté à respirer et que j'en suis ressorti avec une partie de mes bras et de mes jambes en moins, je refuse de céder à la peur de l'invisible. Sauf que là, j'ai un petit bobo dans une narine depuis une semaine ou deux et ça ne guérit pas. Il y a quelques jours, j'ai rencontré une personne qui a attrapé la même bactérie que moi deux fois. Elle m'a raconté que son corps est entré encore plus rapidement en choc septique la seconde fois. Après sa visite, j'ai fait l'erreur de consulter les possibles conséquences d'une plaie dans le nez sur Internet et le couperet tombe. Le staphylococcus peut se retrouver dans une narine et provoquer une infection, voire même une septicémie. Il n'en faut pas plus pour entraîner mes pensées dans un tourbillon vertigineux. Tout mon courage et ma volonté sont aspirés dans un gouffre noir qui perdure quelques jours. Je ne dors pas bien. La boule que je ressens au niveau de mon plexus solaire prend de plus en plus de place. J'ai des vertiges, de la nausée, rien ne va plus. J'apprendrai plus tard que mes malaises étaient probablement liés à mon hypertension maintenant diagnostiquée. Mais à ce moment-là, j'ai peur d'être malade à nouveau, j'ai peur de faire revivre l'enfer à ma famille, j'ai peur de finir par devenir un fardeau pour mon amoureux, pour mes enfants, j'ai peur d'être un poids financier, j'ai peur de voir ma santé encore m'échapper, et la spirale tourne, de jour comme de nuit. Complètement découragé, mon amoureux remarque mes traits tirés et l'absence de mon sourire. Après lui avoir verbalisé toutes mes angoisses, il me répond avec aplomb : on a été capable une fois, on va être capable d'affronter tout le reste ensemble. Encore aujourd'hui. Il y a toujours et encore des moments de découragement qui m'envahissent à l'occasion. Quand les circonstances, les bévues et la malchance s'additionnent aux difficultés, il m'arrive de devoir me parler pour garder mon équilibre. Je me dis alors que je ne suis pas seule et que je dois croire en mes capacités. Surtout, je respire et je me dis qu'au moins, je suis en vie. C'était « Quand le découragement frappe », une chronique de Marisol Saint-Onge, parue le 6 avril 2025 dans Le Droit.
L'ultime tabou, un texte de José Blanchette, paru le 28 mars 2025 dans Le Devoir. On prétend souvent qu'il est plus facile d'envisager la fin du monde que celle du capitalisme. Et j'ajouterais que la fin du voyage, celui qui implique une valise, un passeport et un aéroport, l'enfant chéri de plus en plus obèse du dit capitalisme. Un produit de consommation qui jouit d'un sauve-conduit écolo, car tout le monde l'embrasse, la gauche, la droite et même les verts. Le voyage, c'est la réussite suprême, un idéal à atteindre au sommet de l'envie. La belle promeneuse de Michel Rivard, l'horizon à portée de tous qui fait de nous le héros instantané d'une épopée confortable. Enfin, nuançons, à portée de 10% des citoyens de la planète, puisque 90% d'entre eux ne prennent pas l'avion dans une année et que 80% ne l'ont jamais pris au cours de leur vie. Mais ne désespérons pas, se démocratisant, le voyage au loin, de plus en plus loin, Dubaï en vol direct plutôt que Paris, est promis à un bel avenir, du moins tant que les tarmacs n'auront pas fondu et qu'il restera de l'eau à destination. Extrait de « Belle promeneuse » de Michel Rivard. Des fois, j'aurai le goût de m'en aller. Si ma femme change pas d'idée, on prendra des vacances. C'est ma mère qui va garder les enfants. On ira aux États, peut-être même en France. On l'aura, notre bonheur organisé.
Le voyage s'est infiltré dans toutes les sphères de nos vies, en moins de 60 ans. Nous ne savons plus rêver autrement, et la portion « Regardez où je suis » sur Instagram est devenue plus importante que les feux grecs, hawaïens ou italiens qui brûlent en arrière-plan. La semaine dernière, des touristes québécois dans un tout-compris aux Bahamas réclamaient d'être rapatriés gratuitement à cause du buffet emboucané, une spécialité locale sans supplément. Certains reviennent de Cuba désenchantés par les pannes d'électricité. « Mais il est bien doux quand même de rentrer chez soi », chantait Barbara. « Une tasse au Machu Picchu. J'ai fait la liste de toutes les raisons qui nous servent de prétexte pour aller voir ailleurs si nous y sommes. Elles sont toutes valables d'un point de vue individuel. Les formations professionnelles, personnelles ou spirituelles. Deux personnes m'ont parlé d'un séjour de yoga à Bali en une semaine. La famille, la culture. Il y a même des croisières de heavy metal. Pauvre poisson. Les études, stages, ressourcements, les affaires et le travail, conférences et congrès internationaux et tout, les soins de santé et esthétique, la santé mentale, les ancêtres, retour aux sources, l'aventure et le risque, les défis sportifs en tout genre, les voyages scolaires, formateurs, la retraite, Liberté 55, on se rappelle, les cadeaux, tu n'aurais pas dû. Les sauveurs et l'humanitaire, le plaisir et l'amour, et si on se mariait à Punta Cana? Le soleil, aller vers l'autre, alors que nous ignorons nos voisins. J'arrête. Et on nous vend des compensations pour nous soulager la conscience, mais Mark Carney s'est empressé d'abolir la taxe carbone. Go figure, comme on dit au Canada. De toute façon, le kérosène est exonéré de taxes mondialement depuis 1944. Bruno Latour, philosophe, dit « Le contraste entre le calme avec lequel nous continuons à vivre tranquillement et ce qui nous arrive est vertigineux. Avec toute la mauvaise foi dont nous sommes capables, il y a les jeunes qui disent « Mais les vieux l'ont fait avant nous » et les vieux qui protestent « Pourquoi j'arrêterais? Les jeunes le font aussi ?» Je suis tombé sur une enquête, Ipsos France 2023, qui nous montrait que les jeunes de 18 à 34 ans sont surreprésentés en avion, la gauche, les gens scolarisés et plus fortunés aussi. Et le Canada vient au 17e rang des émissions mondiales en tourisme, avant la France au 33e rang. Une coordonnatrice de voyage dans un établissement d'enseignement supérieur me confiait anonymement le sujet est trop explosif. Qu'on lui a suggéré de se calmer avec le bilan carbone des voyages exotiques des étudiants. Ne pas voyager, c'est louche dans le milieu académique, même si c'est un billet de consommation comme un autre, et beaucoup plus qu'un autre. Elle a beau expliquer aux étudiants qu'il leur faudrait être végétarien durant 47 ans pour compenser leur voyage au Japon, ils lui répondent que si leur tasse réutilisable au Machu Picchu ne suffit pas, ils vont retourner chez Starbucks et continuer à prendre l'avion. Sophisme 101. Leur éco-anxiété n'a d'égal que l'injustice climatique qu'ils dénoncent pour la galerie. Et finalement, la planète se fiche royalement de nos négociations malhonnêtes avec le gros bon sens. Stefano Boni, Homo Confort, dit « De fait, les masses se sont préoccupées de leur libération en aspirant surtout à augmenter leur pouvoir d'achat. Homo Confort a renoncé à la volonté de se réapproprier le pouvoir politique et il a accepté son assujettissement en contrepartie d'une vie confortable. Leur coordonnatrice a beau organiser des voyages en train à Toronto, c'est moins instagrammable que la randonnée dans l'Annapurna. Bref, elle enrobe la pilule avec empathie. Le voyage sert à engourdir leur mal-être. C'est un baume et ça change le mal de place. Et le deuil d'une planète est plus facile à envisager que celui de la dopamine et de l'égo-portrait. Les écolos turbos. Je ne me rendrai pas populaire avec ce texte. pas plus que le sociologue français Rodolphe Christin avec son récent essai « Peut-on voyager encore ?» paru chez Éco-Société, qui s'adresse aux convertis, vu son titre. Je me suis entretenu avec lui dans la région de Grenoble cette semaine, et il est l'un des rares intellos, mis à part l'astrophysicien Aurélien Barrault et l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, à aborder ce sujet impopulaire depuis des décennies. Le voyage bénéficie d'une forme de surprotection. Il s'est sanctuarisé. Avec le surtourisme, certaines destinations comme Venise ou Barcelone lèvent des drapeaux. Avec la pandémie, c'est la première industrie qui a stoppé sa course. Mais, depuis, les carnets de commandes des constructeurs d'avions sont pleins et les croisières sont en hausse. Il n'y a pas eu d'assagissement, constate l'éco-sociologue qui n'a pas repris l'avion depuis 2018. Pourquoi publier dans une maison d'édition québécoise? C'est assez kamikaze de critiquer le tourisme en France. Quant aux plus jeunes, Rodolphe Christin constate que le voyage exotique fait partie de leur conformité sociale. Il faudrait cesser de valoriser et de « liker » une industrie qui prospère grâce à une publicité gratuite sur les réseaux sociaux. On va toucher à la limite du truc lorsque les habitants feront face à des pénuries de logements, à des hausses de prix dans leur vie quotidienne à cause des touristes. En attendant, c'est de la drogue dure. En effet, lorsque mes amis me soulignent que « ça ne va rien changer que tu ne prennes pas l'avion, José », je réponds « exact, comme ça ne va rien changer que j'aille voter le mois prochain, mais qui ira sinon ?» C'était « L'ultime tabou », un texte de José Blanchette paru le 28 mars 2025 dans Le Devoir.
À quoi ressemblent des funérailles écologiques? Un texte commandité, paru le 17 mars 2025 dans La Presse. L'enterrement classique, avec embaumement, cercueil massif et terrain privé dans un cimetière, implique l'enfouissement d'une grande quantité de matériaux et de produits chimiques. L'incinération requiert, quant à elle, une quantité importante de carburant, en plus d'émettre divers polluants dans l'atmosphère. Si vous souhaitez marquer la fin de votre passage sur Terre par des funérailles à faible empreinte écologique, voici d'autres options à considérer. 1. La sépulture en mer. Cette option ne s'adresse pas qu'aux militaires, aux capitaines de navires et aux pirates. Les lois canadiennes permettent à quiconque de retourner à l'océan pour son dernier repos, tant que certaines conditions sont respectées. La cérémonie doit notamment se dérouler à au moins 5,5 km du rivage et l'utilisation d'un réceptacle biodégradable est exigée. Il est également recommandé d'ajouter des poids pour que la dépouille demeure dans les fonds marins. De plus, il faut obtenir un permis d'immersion en mer auprès d'Environnement et Changement climatique Canada. 2. L'urne funéraire biodégradable. Sans pour autant réduire la consommation énergétique de l'incinération, cette solution règle au moins deux problèmes, la haute alcalinité et la forte concentration en sodium des cendres humaines, qui peuvent perturber les sols. L'urne biodégradable contient un additif acide qui rétablit l'équilibre chimique et offre un terreau propice où planter un jeune arbre. 3. L'aquamation. La technique d'hydrolyse alcaline combine eau, chaleur et hydroxyde de potassium pour décomposer les tissus humains en environ 16 heures. Les ossements sont quant à eux broyés et remis à la famille en guise de cendres. L'eau est chauffée par électricité, ce qui ne nécessite qu'une fraction de l'énergie requise par le procédé habituel d'incinération et n'émet aucun CO2 dans l'atmosphère. Cette approche consomme cependant quelque 300 litres d'eau par dépouille. une quantité qui demeure considérable. 4. L'enterrement naturel. La Société canadienne de l'enterrement vert énumère 5 principes à respecter pour qu'un enterrement soit considéré comme écologique. Aucun embaumement, mise en terre directe, restauration et conservation écologique, commémoration simple et optimisation du territoire. En prévision d'un tel enterrement, le corps est préservé par réfrigération ou à l'aide de produits éco-responsables, puis est déposé dans un linceul de fibres naturelles ou un cercueil biodégradable. Le lieu de dernier repos, généralement de petite taille, est recouvert de plantes indigènes et décoré d'un monument modeste, fait de matériaux naturels. L'éventuelle réutilisation d'un même terrain est encouragée. 5. Le compostage humain. La réduction organique naturelle, Natural Organic Reduction, transforme la personne défunte en terreau fertile après 30 à 45 jours. Le corps est drapé d'un linceul biodégradable et mis dans une voûte remplie de luzerne, de copeaux de bois, de paille et de fleurs sauvages pour accélérer sa décomposition. Le compost, en résultant, peut ensuite être récupéré et répandu dans un jardin funéraire ou dans un milieu naturel. Bien que cette pratique soit interdite au pays, certaines entreprises canadiennes offrent ce service en partenariat avec des États américains qui l'autorisent, tels que le Vermont, New York, le Maine, le Minnesota et Washington. 6. L'inhumation céleste. Les moines tibétains qui célèbrent ce rituel, appelé jator, gravissent une montagne et font don du corps de la personne défunte au ciel, ou plus précisément aux vautours, aux corbeaux et autres oiseaux charognards qui viendront s'alimenter des restes. Le bouddhisme considère qu'une dépouille sans âme est un réceptacle vide qui peut être mis à contribution en nourrissant la faune. Les lois canadiennes et américaines interdisent cette pratique en Occident, mais elle persiste au Tibet, en Mongolie, en Inde et dans certaines provinces de Chine. C'était « À quoi ressemblent des funérailles écologiques ?» un texte commandité paru le 17 mars 2025 dans la presse.